chapitre 19. Il y a dans le petit hôtel de M. Félix Panton une grande pièce qui servait autrefois d'atelier au peintre mondain et que le nouveau propriétaire meubla avec la magnificence d'un gros amateur de curiosités et la sagesse d'un savant ami des femmes. M. Panton y disposa avec art, dans un ordre déterminé, des canapés, des sofas, des divans de formes diverses. En entrant, le regard, promené de droite à gauche, rencontrait d'abord un petit canapé de soie bleue, dont les bras à col de cygne rappelaient le temps où Bonaparte, à Paris, comme autrefois Tibère à Rome, restaurait les mœurs, puis un autre canapé, moins étroit, en Beauvais, avec des accotoirs de tapisserie, puis une duchesse en trois parties, garnie de soie, puis un petit sofa de bois à la capucine, couvert de tapisserie de point à la turque, puis un grand sofa de bois doré, couvert de velours cramoisi ciselé, avec son matelas pareil, provenant de Mademoiselle d'Amour, puis un vaste divan bas, mollement rembourré, en satin ponceau. Au-delà, il n'y avait plus qu'un amas chancelant de coussins moelleux, sur un divan oriental très bas, qui, tout baigné d'une ombre rose, touchait à la chambre des Baudouins à gauche. Comme de la porte on embrassait d'un coup d'œil tous ces sièges, chaque visiteuse pouvait choisir celui qui convenait le mieux à son caractère moral et à l'état présent de son âme. Panton, dès l'abord, observait les amies nouvelles, épiait leurs regards, s'étudiait à deviner leurs préférences et prenait soin de ne les faire asseoir que là où elles voulaient être assises. Les plus pudiques allaient droit au petit canapé bleu et posaient leurs mains gantées sur le col du cygne. Il y avait même un haut fauteuil de velours de Gênes et de bois doré, trône autrefois d'une duchesse de Monède et de Parme, qui était pour les orgueilleuses. Les parisiennes s'asseyaient tranquillement dans le canapé de Beauvais, les princesses étrangères marchaient d'ordinaire vers l'un ou l'autre sofa. Grâce à cette disposition judicieuse des meubles de conversation, Panton savait tout de suite ce qui lui restait à faire. Il était en état de garder toutes les convenances, averti de ne point tenter des passages trop brusques dans la succession nécessaire de ses attitudes, et aussi d'éviter à la visiteuse comme à lui-même des stations longues et inutiles entre les politesses de la porte et la vue des Baudouins. Et ses démarches en prenaient une sûreté et une maîtrise qui lui faisaient honneur. Madame de Gromans se montra tout de suite un tact dont Panton lui sut gré, sans regarder seulement le trône de Parme et de Modène, en laissant à sa droite le col de cygne consulaire, elle s'assit dans le Beauvais fleuri comme une parisienne. Clotilde avait langui dans la petite noblesse agricole du département, un peu traînée avec de petits jeunes gens mal élevés. Mais le sens de la vie lui venait. Les embarras d'argent avaient beaucoup exercé son intelligence et elle commençait à comprendre le devoir social. Panton ne lui déplaisait pas excessivement. Cet homme chauve, avec des cheveux très noirs, collés aux tempes, de gros yeux de la tête, un air d'amoureux apoplectique, lui donnait un peu envie de rire et contentait ce besoin de comique qu'elle avait dans l'amour. Sans doute elle lui préférait un superbe garçon, mais elle était encline à la gaieté facile, disposée à l'amusement qu'un homme procure par des plaisanteries un peu grasses et par une certaine laideur. Après un moment de gêne bien naturel, elle sentit que ce ne serait pas horrible ni même très ennuyeux. Ce fut très bien. Le passage du Beauvais à la duchesse et de la duchesse au grand sofa se fit convenablement. On jugea inutile de s'arrêter aux coussins orientaux et l'on passa dans la chambre des Baudouins. Quand Clotilde songea à les regarder, la chambre était, comme ces tableaux du peintre érotique, toute jonchée de vêtements de femmes et de linge fin. « Ah, les voilà, vos Baudouins, vous en avez deux, parfaitement. » Il possédait le jardinier galant et le carquois épuisé, deux petites gouaches qu'il avait payées 60 000 francs pièce à la vente Godard et qui lui revenaient beaucoup plus cher que cela par l'usage qu'il en faisait. Il examinait en connaisseur, très pâle maintenant et même un peu mélancolique, cette fine, élégante, coulante figure de femme et il goûtait à la trouver jolie, une petite satisfaction d'amour-propre qui s'avivait à mesure qu'elle revêtait pièce à pièce son caractère social avec ses vêtements. Elle demanda la liste des candidats. Panton, industriel, Dieudonné de Gromance, propriétaire, docteur Formerolles, Mulot, explorateur. Mulot? Le fils Mulot. Il faisait des dettes à Paris. Le père Mulot l'envoya faire le tour du monde. Désiré Mulot, explorateur. C'est excellent, un candidat explorateur. Les électeurs espèrent qu'il découvrira des débouchés nouveaux à leurs produits. Et surtout, ils sont flattés. Madame de Gromance devenait une femme sérieuse. Elle voulut connaître la proclamation aux électeurs sénatoriaux. Il la lui résuma et en récita les passages qu'il savait par cœur. « D'abord, nous promettons l'apaisement. Bressé et les nationalistes purs n'ont pas assez insisté sur l'apaisement. Ensuite, nous flétrissons le parti sans nom. » Elle demanda « Qu'est-ce que c'est que le parti sans nom ?»« Pour nous, c'est celui de nos adversaires. Pour nos adversaires, c'est le nôtre. Il n'y a pas d'équivoque possible. Nous flétrissons les traîtres, les vendus. Nous combattons la puissance de l'argent. Oh, cela est très utile pour la petite noblesse ruinée. Ennemis de toute réaction, nous répudions la politique d'aventure. La France veut résolument la paix. Mais le jour où elle tirerait l'épée du fourreau, etc., etc. La patrie repose ses regards avec orgueil et tendresse sur son admirable armée nationale. Il faudra un peu changer cette phrase-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est littéralement dans les deux autres manifestes électoraux, dans celui des nationalistes et dans celui des ennemis de l'armée. Et vous me promettez que Dieudonné passera ? Dieudonné ou Gobi ? Comment Dieudonné ou Gobi ? Si vous n'étiez pas plus sûr que cela, vous auriez dû me prévenir. Dieudonné ou Gobi, à vous entendre, on dirait que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais dans les deux cas, Bressé échoue. Vous savez, Bressé est de nos amis. Et des miens. Dans les deux cas, vous dis-je, Bressé échoue avec sa liste, et M. de Gromance, en contribuant à cet échec, se sera acquis des titres à la reconnaissance du préfet et du gouvernement. Après les élections, quel qu'en soit le résultat, vous reviendrez voir mes Baudouins, et je fais votre mari tout ce que vous voudrez qu'il soit. Ambassadeur. Au scrutin du 28 janvier, la liste des nationalistes, comte de Bressé, colonel Despotère, Leron ancien magistrat, La Folie Boucher, obtint 100 voix en moyenne. La liste des républicains progressistes, Félix Panton industriel, Dieudonné de Gromance propriétaire, Mulot explorateur, docteur Formerolles, obtint 130 voix en moyenne. La Pratelet, compromis dans le Panama, ne réunit sur son nom que 120 suffrages. Les trois autres sénateurs sortants, républicains radicaux, obtèrent 200 voix en moyenne. Au second tour du scrutin, La Pratelet tomba à 60 voix. Au troisième tour, Gobi, Mannequin, Ledru, sénateurs sortants radicaux, et Félix Panton, républicain progressiste, furent élus.